En tout cas, merci encore d'avoir pris de ce temps, ce week-end, pour être là parmi nous. Et avant de commencer, je vous invite à prier. Voilà. Seigneur notre Dieu, merci encore parce que tu nous permets d'avoir ce moment dans lequel on va encore pouvoir partager, Seigneur, des moments ensemble, partager ce que tu nous as mis à cœur, Seigneur. Et je te prie pour que ce partage, ce message que j'ai préparé, Seigneur, soit pas que ce soit pas centré sur ce que moi, tout simplement, mais que ce soit centré sur toi et sur ce que tu fais en moi et sur ce que tu fais en nous, dans l'église de Saint-Maur, dans ton corps. Seigneur, merci parce que chacun d'entre nous, chaque personne est membre de ce corps, de l'église. Et merci parce que aucun d'entre nous n'est inutile et aucun d'entre nous n'est indispensable. Et c'est toi, Seigneur, qui est indispensable à notre Église, Seigneur. Et je te prie encore pour que ce matin, tu puisses nous parler à travers ce message. Je te prie, Seigneur Jésus. Amen. Donc, j'ai intitulé mon message « La communion au service de la mission ». Ruben a beaucoup insisté sur l'aspect communion, donc je ne vais pas trop réinsister dessus. Et donc mon message va se faire en trois temps. D'abord, je vais aborder un peu les bases bibliques de la communion et de la mission. Ensuite, je vais aborder plutôt un partage sur ce que je vis depuis que je suis à Saint-Maur. Et enfin, sur ce que je vis en ce moment. Voilà. Donc c'est un peu comme un témoignage, mais avec quelques bases bibliques. D'abord, première base biblique. Non. Ah oui, c'est bien. Merci. Jean 13, versets 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns aux autres. Et ce passage dans Jean 13, c'est juste avant l'arrestation de Jésus, et juste après qu'il ait lavé les pieds de ses disciples. Vous savez, au début de Jean 13, Jésus lave les pieds de ses disciples pour leur montrer que c'est leur façon de servir, d'aimer. Et si lui-même, en tant que maître, en tant que rabbi pour eux, il le faisait, eh ben, à plus forte raison, il devait le faire les uns pour les autres. Et il s'agit d'un autre commandement que ce qu'on a déjà vu. On a vu aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même. C'est ce qu'on a vu pendant ce week-end. C'est notre mission première. Mais là, Jésus dit, je donne un commandement nouveau. C'est un commandement que les autres n'ont pas forcément reçu, parce que les autres, que ce soit les pharisiens qui posaient des questions, ou les juifs, etc., ben, ne vivaient pas leur vie avec Jésus. Et là, Jésus leur dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, personnellement, comme je vous ai aimé. Il nous invite à suivre l'exemple, à son exemple. Il a aimé ses disciples et il les a servis. Et moi, j'aimerais vraiment que nous exhorter à nous aimer les uns les autres et de nous servir les uns les autres. Et quelle est un peu la conséquence de tout ça? C'est que tous reconnaîtront que nous sommes les disciples de Jésus. Ça, c'est incroyable. Et finalement, la base de tout, c'est cet amour. C'est cet amour que nous avons entre nous. C'est la base, en fait. Un autre passage, on l'a lu hier pendant la soirée louange, Matthieu 28, 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous savons que ce sont les dernières paroles de Jésus avant l'ascension dans Matthieu 28. Et là, on a un autre commandement, c'est faire des disciples, les baptiser et les enseigner tout ce que Jésus a demandé de faire. C'est-à-dire faire des autres disciples, en fait. Troisième passage biblique, Romains 10, versets 14 à 15, qui est dont on a pris un extrait pour un autre flyer. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Et là, l'apôtre Paul nous explique tout au long du livre de Romains que nous sommes sauvés par la foi en Jésus seul. Et au verset 13, on voit que toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Donc c'est un peu juste avant. Et au verset 14, il dit « Mais ». Et en fait, pour faire appel à Jésus, il faut croire. Mais pour croire, il faut en avoir entendu parler. Et pour en avoir entendu parler, il faut que quelqu'un nous l'annonce. Et pour que quelqu'un l'annonce, il faut qu'il soit lui-même envoyé. Et ces personnes, on remarque qu'elles ont des beaux pieds, parce qu'elles annoncent la bonne nouvelle, la meilleure nouvelle qui soit, le salut en Jésus, qui lui est gratuit. Alors, j'ai remarqué un petit parallèle, je ne sais pas si vous l'avez remarqué par rapport aux pieds, mais que Paul, il parle des pieds des personnes qui servent, qui ont un ministère en fait, un service envers les autres, et notamment les non-croyants. Et de la même manière que Jésus avait lavé les pieds de ses disciples, ben les disciples se servent les uns les autres et servent les autres ensemble. Il les a enseignés tout ce qu'il a prescrit faire des disciples. Donc finalement, les pieds que Jésus a lavés et qui sont continuent d'être lavés parce qu'on continue de se servir les uns les autres, ben ils sont beaux parce que on se les nettoie finalement. Enfin, c'est une petite conclusion perso que j'ai trouvée, mais voilà, je trouve que c'est beau. En Romains 10, 14, Paul qui parle de pieds, pourquoi, voilà. Et c'est ces mêmes pieds qui nous guident là où nous allons. Nous sommes guidés par le Seigneur et c'est l'autre chemin. Voilà. Et finalement, ça, c'est un peu la base biblique. Et maintenant, j'aimerais vous partager un peu mon expérience, entre guillemets, depuis que je suis à Saint-Maur. C'est un peu comme une rétrospective que j'avais jamais fait. Et justement, c'est ce que Dieu m'avait mis à cœur, en tout cas pour le partage d'aujourd'hui. En fait, moi, je suis arrivé à Saint-Maur à la fin de l'année 2008. Donc, j'étais à l'église de collégiens et je sentais vraiment qu'il fallait que je quitte cette église. Et du coup, voilà, j'avais passé 4 ans là-bas, je m'étais converti là-bas, mais pour aller où? Voilà, c'était la grosse question. Où est-ce que je devrais aller? Je connais tellement d'églises chinoises et je connaissais quelques églises françaises, mais surtout des églises chinoises. Et du coup, ma question c'était où est-ce que je dois aller? Après quelques réflexions, des méditations, ben en fait, j'étais arrivé à hésiter entre 2 églises. La première c'était l'église de Belleville, et la deuxième c'était celle de Saint-Maur. Et en fait, le problème c'est qu'à Belleville, en fait, j'avais accroché en amitié surtout avec des filles. Alors qu'à Saint-Maur, il y a un peu plus de gars. Et du coup, je me suis un peu challengé d'aller plusieurs dimanches de suite, en fait, à Saint-Maur. Et ce qui m'a le plus touché, j'ai déjà partagé, j'ai vraiment, c'est marrant, des fois, on vit tellement de choses, mais moi, je garde un seul souvenir précis. C'était, j'arrive au culte, c'est un culte commun de Noël, en décembre 2008, et là, il y a David Nguyen, et en fait, j'étais en retard. La première fois que vous arrivez à Saint-Maur, si vous connaissez comment sont les rues, c'est des sens uniques, voilà. Enfin, la première fois qu'on voit, c'est un peu la misère. Et du coup, j'arrive en retard. J'arrive en retard, le culte à 11h, j'arrive à 11h20, un truc comme ça. Et là, David, il fait « Ah, Clément et tout, on t'a gardé une place. » Parce que j'avais juste écrit un message sur Facebook à David « Oui, je pense que je vais passer à votre culte. » Voilà. Et c'est rien. Mais ça m'a trop touché en fait. C'est le premier truc qui m'a touché. Et petit à petit, je commençais à aller à cette église là et juste ne pas avoir de rôle, m'asseoir, profiter de la communion et tout ça. Et finalement, c'est en participant au groupe de maison, donc du 77. Donc on était à Logne, on était à Ponto Combo aussi à l'époque. C'est là que j'ai vraiment appris à connaître les frères et sœurs. Alors certes, pas tout le monde, c'est pas possible. Mais c'est là que j'ai appris à connaître vraiment mieux Samuel, Irénée, David, Esther, David Chenu, Yaki, Mike. Voilà. C'est vraiment là qu'on se voyait dans la semaine, on se partageait nos sujets de prière, on étudiait la Bible ensemble et on priait ensemble, c'était vraiment fort. Et Saint-Maur, et on l'a déjà répété, mais Saint-Maur c'est une église qui est connue pour la communion fraternelle qu'il y a entre les membres en fait. Et comme on dit, ben, taste and see, et moi j'ai testé et j'ai vu en fait, je me suis rendu compte moi-même en venant dans l'église. Et en plus à l'époque, on avait, je me rappelle, un pasteur. On avait un berger, on avait Belkacem, qui était dévoué au service de la partie francophone. Et personnellement, c'est un pasteur qui m'a beaucoup délégué de tâches. J'étais, voilà, il me disait fais ci, fais ça, voilà, s'il te plaît. Hop, moi, je suis toujours motivé. Et aussi, il était aussi là pour me calmer, me freiner mes ardeurs, qui des fois étaient peut-être trop maladroites ou qui venaient trop tôt en fait. Voilà. Donc ça, c'est comment je suis arrivé à Saint-Maur. Donc, tu peux montrer des quelques images. Donc ça, c'est la première fois que je suis allé, c'était le culte. Voilà, c'est pour illustrer un peu mes propos. Donc voilà, on voit qu'à l'époque, Mickaël avait une autre coupe de cheveux, Sam presque la même. Voilà, Joël jouait dans des dramas, David Nguyen des cheveux longs, Francis. Vous enverrez les photos si vous voulez. Tu peux passer. Ça, c'est le groupe de maison. Donc, Samuel mettait des casquettes, David, Esther mettait des survettes, voilà, c'était... Voilà, et en fait, c'est janvier 2009, donc c'était le début, c'était mes premiers groupes de maison. Donc, Michael, Sam, je sais pas si vous vous rappelez, c'était... On étudiait une habitation... à une autre cœur, une habitation pour Dieu, et c'était sur le tabernacle, et pendant un an, je crois, on a étudié le tabernacle. J'avoue, j'ai pas tout retenu, mais j'ai retenu qu'on a passé des bons moments, voilà. Voilà. Maintenant, je vais décrire une situation, les événements qui sont passés entre 2008 et 2015, donc il y a 7 ans. Ne vous inquiétez pas, je passe pas un quart d'heure par année. En fait, j'ai appelé ça « Comment Saint-Maur a évolué de la communion à la mission ?» Et alors, c'est quelque chose que j'ai remarqué en prenant du recul par rapport à ce qu'on vivait. Quand on est dedans, on se rend pas compte, en fait. Là, je prends un peu de recul, je regarde en arrière, je fais « Waouh !» Enfin, et c'est peut-être une vision qui est pas forcément partagée par tout le monde ici, mais je pense que ça peut nous concerner pas mal. Alors, juste avant, est-ce que tu me passes la bouteille d'eau ? J'ai trop soif. Merci. Il y a d'autres photos, vous inquiétez pas. Alors, en fait, de 2008 à 2012, pendant longtemps, nous avons été un groupe, ou plusieurs petits groupes dans un grand groupe. Mais on avait fait beaucoup d'activités ensemble, on était tous tournés vers l'intérieur. Mais c'était normal parce qu'on était une église qui... comme une église qui débutait finalement, parce qu'on a une partie francophone qui petit à petit prenait des responsabilités. J'ai l'impression qu'on avait surtout pratiquement que des amis, surtout chrétiens. Quelques amis non chrétiens certes, mais à l'époque on avait du mal à leur parler de Dieu, du mal à répondre à leurs questions, et le mal à expliquer ce que notre foi finalement, et aborder les questions auxquelles peut-être ils se posaient. Et des fois on avait l'impression de les choquer, ou on était gênés pour leur parler, pour partager l'évangile. Et finalement, on était comme, j'ai l'impression, comme dans une sorte de bulle. Mais on était bien ensemble, on vivait des choses fortes, mais on était assez tournés vers l'intérieur quand même. Puis en juillet 2010, je sais pas pour ceux qui étaient, peut-être vous vous rappelez, tu peux montrer la photo, il y avait Mathieu Comarianos et l'église KEF de Nation et d'autres églises qui ont organisé un festival d'évangélisation qui s'appelle Paris Gospel 2010. Et il y avait notamment Laura, je crois, hein, tu faisais partie de Nation à l'époque, avec plus de 100 personnes qui étaient venues pour aborder les Parisiens. Et en fait, on avait des flyers, on les invitait à des concerts gospel, peut-être que c'est un peu ce qu'on va faire, et où l'évangile était prêché, voilà. Donc Saint-Maur, on a participé avec plus de 10 personnes, on voit Fanny, Jadira, David Nguyen, Daniel, Nathan, Yada, Florence, Gilles et moi. Peut-être des personnes que j'ai oubliées, je suis vraiment désolé, hein, j'ai pris les photos que j'avais. Et pour moi, je retiens que c'était la première vraiment expérience d'évangélisation en église à Saint-Maur, en tout cas sur la durée. Ensuite, entre 2010 et 2012, on a eu Gilles, je ne sais pas si vous vous rappelez de Gilles Collin, qui a été élu, le seul représentant, mais bon, il était élu quand même, diacre évangélisation. Et je me rappelle qu'il essayait de motiver les membres à venir le samedi matin. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces réunions du samedi matin où on se réunissait. Et pour se former à l'évangélisation, on abordait les questions suivantes, etc. Et des fois, on sortait sur le marché d'Adamville pour évangéliser. Mais c'est vrai qu'on a constaté que le groupe était vraiment pas mal constitué des mêmes personnes. Et c'était assez difficile de motiver en fait les gens pour l'évangélisation. Moi personnellement, j'étais pas vraiment dans ce groupe. Enfin, j'allais, mais j'allais pas souvent. En fait, je suis pas régulier. Mais les gens qui étaient le plus réguliers, il me semble que c'était, on avait Gilles, on avait Michael Lai pour de vrai, enfin le vrai Michael Lai. Je crois qu'il y avait Yada aussi qui venait souvent. Moi, je rappelle une fois, il y a Yada qui m'a raconté. Peut-être que tu pourras me compléter. Que une fois, vous êtes rencontrés et vous étiez surtout trois, je crois, alors que on aurait pu être plus, quoi. Moi, je sais pas, en tout cas, ça m'avait marqué. Et en fait, j'ai contacté Gilles en lui expliquant voilà ma démarche de faire ce message, et je lui ai demandé qu'est-ce que tu aurais envie de dire à Saint-Maur. Lui s'est rendu compte que il avait pris ça comme une activité. Allez, faut faire l'évangélisation, on y va. Et qu'avec du recul, il se dit que si on était vraiment si on était vraiment dans une communion parfaite avec le Seigneur, etc., vraiment motivés nous-mêmes, l'évangélisation, ça allait découler de soi, en fait. Mais que c'était pas en faisant l'activité qu'on allait y prendre plaisir, mais que c'était prendre plaisir en Dieu pour ensuite avoir à cœur de faire l'évangélisation. Voilà. C'est le message que notre ancien diacre évangélisation voulait faire passer. Et ensuite, courant 2012, donc je continue, Guillaume Bourin, qui est évangéliste, a commencé à venir prêcher à Saint-Maur et à se lier d'amitié avec certains d'entre nous. Et sachant qu'auparavant, on avait déjà, depuis 2010, Mathieu Comarenos, qui est aussi évangéliste et qui venait communiquer son zèle pour les non-croyants, son amour pour les non-croyants. Et là, en avril 2012, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient, il y a l'église de Montreuil qui a lancé sa première campagne d'évangélisation et qui s'appelait « Atteindre Montreuil ». Donc, je sais que certains d'entre nous ont participé, il y avait Joël, Eric Engo, Eric Chancel, peut-être d'autres personnes, que Nathan. Et c'est là que nous avons appris pour la plupart à parler de Dieu à des musulmans. En tout cas, j'ai l'impression que c'est pas mal les premières expériences, en fait. Et la même année, tu peux passer la prochaine slide, on a participé avec Laurent et Alain, on a participé à Bouge ta ville avec JPC en octobre 2012, donc Bouge ta ville Paris. Donc avec Alain et Laurent, on était très sérieux, enfin pas sûr à ça, mais en tout cas on a vraiment pris plaisir à partager l'évangile aux Parisiens. Voilà, c'était une expérience. Et moi personnellement, c'est en 2012 que mon désir de servir le Seigneur dans l'annonce de l'évangile s'est concrétisé. Et en septembre 2012, pour ceux qui, enfin, vous savez sûrement, c'est que j'ai intégré la promo R2E, donc réseau des évangélistes émergents, et qui regroupe 10 évangélistes qui sont recommandés en fait, qui finissent leurs 2 ans de formation en 2014. C'est pour ça que moi c'était la promo 2014. Et en fait, la première année de cette formation d'évangéliste, elle est axée sur le caractère, la personnalité, les dons, etc. Donc se connaître soi-même. Et la deuxième année est plus axée sur le ministère. Qu'est-ce que tu t'imagines faire d'ici 5 ans et comment tu vas planifier ces choses-là, comment tu vas mettre en place des jalons pour arriver à ce que tu aimerais faire dans 5 ans. Ça va pas arriver juste comme ça, c'est des choses qui se préparent. Donc voilà, on était vraiment axé sur ça, c'était avec France Évangélisation. Et en avril 2013, donc rebelote, on a eu une deuxième semaine de mission Atteindre Montreuil, auquel encore d'autres personnes ont participé de l'église de Saint-Maur. Moi personnellement, je suis allé je sais qu'il y avait Tatiana qui était pas encore à l'époque à Saint-Maur, mais qui était présente aussi avec Laurent et d'autres. Et moi, c'était ma première expérience d'évangélisation auprès des musulmans. Et franchement, les peuples non atteints, les musulmans, j'aime ça. C'est juste, les musulmans, ils ont une telle écoute, une telle, je sais pas, on leur parle de Dieu, c'est normal en fait. Quand on parle avec des athées, déjà faut presque réussir à convaincre que, admettons que Dieu existe. Les musulmans, c'est, ah oui, bah oui, Dieu existe, mais après, on a déjà une base qui est pas commune, mais on a une base sur laquelle on peut parler, en fait. Et ça, c'est, ils auront du respect, même pour Jésus, on parle de Jésus, bah eux, c'est un prophète, alors forcément, il y a une base, de discussion, en fait. Voilà. Ensuite, courant 2013, Guillaume a lancé un groupe assez informel, qui s'appelle T40, pour ceux qui se rappellent. C'est un groupe de disciples qui a pour but de faire d'autres disciples en se basant sur Matthieu 28. Et nous à Saint-Maur, on a décidé de nous séparer parce qu'on avait un groupe de plusieurs personnes d'églises différentes. Il y avait Sabrina, il y avait Calagan, Nicolas Blocher, voilà, Anta, Tina de Nation. Voilà, on était plus de plusieurs églises. Et après, on s'est dit, bah pourquoi pas prendre ce qu'on a reçu et l'appliquer dans nos groupes de maison. C'est pour ça qu'on a fait ce qu'on appelle les leçons de base, donc sur la mission, le baptême, la souffrance, l'Église, des thèmes généraux que, en fait, dès que quelqu'un se convertit, c'est ça qu'il faut voir avec ces personnes-là, parce que c'est la base de ce qu'est la foi chrétienne. Et ça, on a fait ça dans nos groupes de maison. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à partager aussi l'œikos, partager sur nos amis non chrétiens, etc. Et dans la foulée, et c'est là que tu peux mettre la photo, en octobre 2013, nous avons été plusieurs de Saint-Maur à nous passionner pour la mission. Et je sais pas si vous vous rappelez, il y avait à ce moment-là, on avait engagé Guillaume comme un consultant chez nous de septembre à décembre. Et Guillaume nous a soutenu avec Raphaël Charrier, qui est venu exprès de Grenoble. On avait un peu comme deux parrains finalement pour lancer cette première semaine d'évangélisation. Et on a eu 40 personnes qui étaient présentes. On a une super communication. Voilà. Enfin, vous savez, Guillaume, en communication, il est vraiment pas mal. Donc, il avait son réseau. Et on a eu des étudiants de l'Institut biblique de Nogent qui sont venus faire leur stage aussi. Et, l'église de Saint-Maur, on était environ 12 personnes. Soit à peu près un tiers de l'église. Et c'est là que, personnellement, quand j'étais diacre évangélisation, je me suis dit, ça y est, c'est parti. On a une église qui, j'ai l'impression qu'on est en train de, de passer un cap, en fait. On a été pendant très longtemps une église qui était tournée vers l'intérieur et qui finalement se tournait de plus en plus vers l'extérieur. Et les activités qu'on avait fait, c'était se faire connaître au quartier à coups de flyers dans les boîtes aux lettres, de porte à porte. Et on s'est fait connaître aux habitants du Val-de-Marne, dans les gares RER, etc. Et l'année d'après, en avril 2014, il y a encore eu de nouveau une semaine de Montreuil. En fait, c'est pas que Montreuil, on n'est pas les bébés de Montreuil quelque part, mais finalement Montreuil nous a beaucoup soutenus pour lancer notre semaine d'évangélisation de Saint-Maur, en fait. Donc on leur doit beaucoup, et même on fait pas partie de la même alliance. C'est ça qui est marrant, on fait pas partie de la même alliance, mais on fait partie de la même Église universelle. Et finalement voilà, quand on fait des semaines à Saint-Maur, il y a toujours quelques personnes de Montreuil qui viennent nous aider. Je pense à Suzanne qui travaille à Saint-Maur. Je pense à Timothée Koumi qui vient nous faire des formations, qui nous aide à parler aux catholiques, aux musulmans, etc. Donc voilà. Et en octobre 2014, on a décidé de lancer la deuxième édition de la semaine. Alors cette fois-ci, on n'avait plus l'influence de Guillaume et de Raphaël. Donc on est passé de 40 à 20 personnes pour la semaine. Et en fait, bon, il y a eu un concours de circonstances qui a fait qu'on n'était que 7 personnes de Saint-Maur à participer. Mais par contre, on a pu heureusement compter sur le soutien de l'Institut biblique de Nogent, il faut le rappeler, qui a envoyé 6 étudiants. Donc Laura, tu fais partie de la première vague d'étudiants, hein. Je l'ai pas signalé, mais effectivement, les étudiants libyens qui nous étaient d'un grand secours, en tout cas, de par leur présence et aussi de par leur expérience. Et l'année dernière, on avait notamment, pour ceux qui connaissent, Nathan Millet et Thomas Audap. Et c'est une bonne semaine. Il y avait très peu de personnes qui faisaient partie, qui ont fait la semaine entière. Voilà, il y a des gens qui venaient une journée, deux journées, trois journées. Et beaucoup sont venus donc ponctuellement. Mais j'en ai gardé une très bonne expérience. Même si j'avoue que, en fait, au début, je pensais que, ok, bon, il n'y a pas Guillaume, il n'y a pas, voilà, mais je suis diacre évangélisation, je vais gérer ce camp, ça va aller. Et en fait, l'organisation de ce camp, personnellement, ça m'a extrêmement épuisé avant même que la semaine commence, en fait. Et je me rappelle aussi que j'ai même pas pu faire la semaine en entier parce que vendredi, avec Tatiana, on était parti en voyage de noces, voilà. Donc c'était, j'étais très heureux de partir, mais j'étais assez frustré. Frustré pourquoi ? Parce que j'ai pas pu mieux organiser la semaine, j'ai pas pris assez d'avance, j'ai pas assez délégué, j'ai pas assez communiqué, et surtout j'ai pas pu participer jusqu'à la fin. Donc pour toutes ces raisons, j'étais vraiment frustré l'année dernière. Quand bien même on a eu des contacts, quand bien même voilà. En fait, ce que je me suis rendu compte, c'était que je me suis cru fort, je me suis cru capable en fait de gérer par mes propres forces. Mais c'était un constat d'échec personnel, et même si peut-être ça se voyait pas trop, hein, voilà, mais c'était le cas. Et entre-temps, en septembre 2014, on a eu Mickaël qui a aussi été accepté au R2E dans la promo 2016. Donc en 2016, il aura son diplôme. Et ça va faire deux évangélistes, Mickaël et moi-même, reconnus par notre église locale, parce que l'église locale soutient les évangélistes et qui sont envoyés par l'église locale, en fait. Si on n'avait pas le soutien de l'église locale, c'est-à-dire vous, c'est-à-dire le comité, on serait pas là. Enfin, on n'aurait pas pu avoir cette formation. Et on a fait un grand saut en avant, en 2015 aussi. C'est l'émission au Sénégal. Alors là, j'ai pas mis les photos parce que j'ai pas tout récupéré, mais l'émission au Sénégal en mars 2015, l'émission au Cambodge en juillet 2015. Et ça a été le gros plus, parce que je crois il y a au moins la moitié de l'église, en gros, enfin de la partie francophone, qui est partie en mission, en fait, sur l'année 2015, ce qui est juste incroyable. Enfin, c'est génial. Donc c'était le gros pôle de développement en 2015, c'était la mission. Et du coup, en fait, depuis janvier 2015 jusqu'à encore donc 2 ans, je suis passé diacre relation, et Mike lui est passé diacre évangélisation. Et Mike, en fait, il a pas fait la même erreur que moi. Donc, très rapidement, on a lancé un comité d'évangélisation, c'est-à-dire un comité pour organiser la semaine, donc les personnes dont on a cité. Et on a commencé à se réunir dès juillet, en fait. Donc juillet pour octobre, c'est quand même pas mal d'avance. Et on a vu une reprise assez intense début septembre, avec des réunions toutes les semaines. Et résultat, on a un programme qui est presque prêt. On a presque l'ensemble des orateurs qui est trouvé. On a un groupe de gospel qui est volontaire, qui sont vraiment bons, hein, et qui viennent faire un concert gratuit, c'est-à-dire ils ne demandent pas de frais, même si on va les soutenir, hein, mais voilà, d'habitude les groupes gospel ils ont des cachets, etc. Enfin, quel que soit le groupe, hein, finalement, c'est entre guillemets, c'est normal. Mais voilà, eux ils demandent pas de frais. Et on a une équipe qui se répartit les différentes tâches et réfléchit ensemble à une communication. Ce qui fait que je suis pas allé voir toutes les églises, je suis allé voir que le CEP. Sam il est allé voir l'église de Pantin, l'église du 13e de Masséna et l'église du 13e passage national. Donc voilà, on s'est vraiment réparti les églises. Et bref, rien à voir en termes d'organisation. Voilà. Et maintenant, c'est qu'est-ce que va devenir Saint-Maur après 2015? 2015 jusqu'à et après, quoi, à partir d'aujourd'hui, en septembre. Et en fait, aujourd'hui, c'est comme il y a un petit hic en fait. Alors, juste avant d'arriver au petit hic, j'ai montré les photos à si tu peux passer. Donc là, c'était en octobre 2013. Voilà, donc on voit Laura au milieu. Voilà. Donc on était pas mal. Il y avait Francis, il y avait Yada, Flo, Eric Chancel, moi, Laurent, David Nguyen, Alain, Justine, voilà, Tatiana avec la bouche verte, voilà, Sabrina qui nous a aidé aussi. Voilà, tu peux passer, s'il te plaît. Donc ça, c'était en 2014. Vous voyez, on est divisé par deux. Voilà. On a divisé par deux, on était moins nombreux, mais il y avait quand même les personnes qui ont plutôt la peau blanche sont des personnes de l'IBN, et toutes les autres personnes sont plutôt des... Bah, c'est un constat, hein, c'est juste un constat. Tu peux passer. Et voilà, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Voilà. Et donc 2015, petit hic. Cette année, on n'a pas de Guillaume ni de Raphaël pour la com. On n'a pas d'étudiants en IBN non plus, parce que cette année, ils font pas de stage en octobre 2015. Et du coup, aujourd'hui, on a 5 inscrits de Saint-Maur. Et on est 7 inscrits pour la semaine, pour l'instant. Et devant ce constat, et par rapport à tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, et j'ai comme l'impression que Dieu est en train de nous dire, ok, bon, la première année, ok, c'est le début, j'ai pas trop vu bizuter, je vous ai trouvé des parrains, ils ont fait du bruit, ils ont ramené du monde, t'inquiète, y a pas de souci, on est 40, 50, ok, ça marche super. Ensuite, la deuxième année, ok, bon, vous êtes moins nombreux, mais il y a IBN qui est là, ils vous ont fourni un tiers des présents, en plus, ils étaient là à plein temps, donc c'est génial, enfin, ça va aller. Et là, troisième année, bah, sans les parrains et sans l'IBN, verset 14 du Romains 10, comment entendront-ils l'évangile s'il n'y a personne pour le leur annoncer? Voilà. J'ai l'impression que cette année, je crois que par rapport à cette semaine de mission, Dieu est en train de nous lancer un défi, en fait. Et on a vu avec Ruben qu'on était appelé à vivre notre vie à 100% pour la gloire de Dieu. C'était vraiment aimer Dieu, aimer son prochain. Et que pour ça, il fallait qu'on prenne des décisions chaque jour. Et notamment, être concret, sachant que chacun de nous a un rôle, quel qu'il soit. Parce que nous faisons tous ensemble partie du même corps. Et aujourd'hui, je vous invite vraiment à faire ce vœu d'être concret dans nos choix, d'appliquer en fait cela. Et parce que Dieu nous a placés à sa mort pour que nous soyons une lumière. Matthieu 5, je vais lire dans 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Et ça fait vraiment écho à Jean 13, en fait, qui dit, c'est à cela, donc à l'amour que nous avons les uns pour les autres, que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Que les gens nous voient agir entre nous, mais également auprès d'eux. Et donc, nous sommes une lumière. Mais pour briller, finalement, nous avons besoin d'être nombreux pour former une plus grande lumière, de plus de réflexion, plus de vers les autres, en fait. Et le défi que j'aimerais nous lancer, en fait, pour cette année, c'est de pouvoir avoir 15 personnes de Saint-Maur à participer à la semaine. Parce qu'on n'aura pas l'IBN, on n'aura pas d'aide de l'IBN, on n'aura pas d'aide d'autre chose. Enfin, on n'a plus les parrains, etc. Mais, finalement, c'est peut-être Dieu, il est en train de nous dire, bah, voilà, c'est à vous de vous prendre en main maintenant, c'est vous. Et, voilà, on est déjà 5, donc il reste encore 10 personnes à motiver. Et je sais que, voilà, je sais très bien que certains ont déjà posé des vacances et n'ont plus de jours. Je sais que certains ont des choses à faire. Mais pensez à ceci. Nous sommes des lumières que Dieu veut utiliser afin que les hommes autour de nous voient les œuvres de Dieu et célèbrent la gloire de Dieu. Et si nous participons à cette semaine, c'est pour bien sûr briller, mais surtout éclairer en direction de Dieu. Alors certes, je suis d'accord, réserver une semaine pour une mission, c'est un sacrifice. Ceux qui sont partis au Cambodge et au Sénégal, ça fait beaucoup de jours à poser, donc ça, c'est clair, c'est un vrai sacrifice. Et si Dieu a accepté d'aller jusqu'au bout en sacrifiant Jésus-Christ pour nous sauver, est-ce que finalement nous ne devrions pas aussi sacrifier de notre temps en retour? Alors, peut-être que il y a des choses comme Ruben avait évoqué, la crainte. Moi, personnellement, je vous avoue, là, même aujourd'hui, je me tiens devant vous, mais j'appréhende vraiment la semaine parce que, il fallait voir des gens que je connais pas, sonner à des immeubles en essayant de rentrer dedans, faire du porte-à-porte. Franchement, c'est pas du tout, j'aime pas du tout ça. Mais je le fais parce que Dieu nous le demande. Alors, des fois, je bug, je suis devant l'interphone, je fais oui, on est vos voisins, je bug et je stresse et, mais finalement, c'est Dieu qui me donne cette force. Donc, je partage cette crainte. Mais cette crainte, en fait, elle ne doit pas nous paralyser, en fait. Au contraire, elle devrait nous pousser à plus nous réfugier en Dieu. Et peut-être, il y a autre chose, c'est l'indifférence. Ce que disait aussi Ruben. Peut-être se dire, de toute façon, la semaine, je suis indifférent par rapport à ça. Et ça, c'est un autre danger. Donc, il y a la crainte et l'indifférence. Et en fait, pensez à ce que Dieu a fait pour nous et pensez au fait que Dieu peut nous enlever cette crainte et cette indifférence. Parce que si nous sommes dans la communion fraternelle ensemble, on va pouvoir se frotter les uns aux autres pour faire encore plus de feu, en fait, comme des pierres qui se frottent et porter plus de lumière finalement. Alors peut-être que Dieu cette année est en train de vous mettre au défi et de vous pousser à participer. Et peut-être c'est pas possible. Peut-être c'est impossible, vous avez pas de vacances pour certains, même pas du tout. Mais peut-être que vous pourriez encourager quelqu'un que vous connaissez, peut-être pas forcément de cette église, mais encore mieux si c'est de cette église, parce que je crois vraiment qu'on doit prendre aussi les choses en main et pas toujours compter sur l'aide d'autres églises ou d'autres personnes, mais vraiment voilà, encourager les uns les autres soit à participer, soit à encourager d'autres personnes à participer. Voilà. Et ma troisième partie, ça va être sur plus un partage personnel de ce que je vis en ce moment, en fait. Et j'ai déjà partagé à Yada hier et à David Chenu, mais nous avons vu ensemble que la communion, c'était vraiment à la base de tout, et notamment de la mission. Et le plus important, finalement, c'est d'avoir cette base solide dont on parle, la communion fraternelle. Et finalement, Saint-Maur, c'est un peu ça. On a commencé, on était vachement tourner vers l'intérieur malgré nous, on a grandi comme ça et petit à petit on est en train de s'ouvrir. Et 2015, je crois que c'est vraiment une année, je crois que c'était 2013, mais en fait deux missions plus une semaine de mission encore à Saint-Maur, c'est vraiment, je pense, l'année charnière, en fait c'est le turning point, je pense vraiment c'est là que on est en train de s'ouvrir. Et je propose d'ouvrir la porte, elle commence à être ouverte et je vous encourage à vraiment à pousser pour que la porte elle soit encore plus grande, quoi, vraiment pour cette année. Et voilà. Mais pour ça, il faut avoir une bonne communion fraternelle, vraiment. C'est pas, je vais faire une activité comme Gilles l'a partagé, lui voyait ça comme une activité, mais c'est pas une activité en fait. C'est juste obéir au commandement de Dieu, en fait, finalement. Et moi personnellement, ces derniers temps, j'étais très pris par le boulot. Alors vous connaissez le refrain métro boulot dodo, et c'est pas top aussi. En plus, le mot boulot se retrouve dans dodo, parce que voilà, ça m'arrive de rêver du travail en ce moment. Et j'étais même, enfin pour ceux qui le savent pas, j'avais commencé en juillet en fait à lire la Bible avec deux collègues qui étaient intéressés. Donc on faisait découvert de la Bible, etc. Et même en ce moment, à chaque fois j'avais des réunions, des choses qui faisaient que c'était pas possible. Et je m'accrochais plus tellement, je me disais ok, tant pis, on fera pas. Et du coup j'étais moins motivé en ce moment, depuis le début septembre en fait. Et j'ai pris un peu de recul, je parlais à Tatiana, je parlais à moi-même, je réfléchissais et puis je parlais à Dieu, et je me suis rendu compte que depuis début septembre, je voyais très peu de frères et sœurs en termes de communion fraternelle, en fait. Voilà, je venais le dimanche, voilà, on vit le culte, mais dès que le culte est fini, on partait en réunion, comité, etc. Je dis pas que les réunions c'est mauvais, hein, mais tellement je faisais des réunions, on n'avait jamais de vraies discussions. Je croisais des gens, je discutais vite fait, mais voilà, enfin, je vais voir André, je vois ses enfants, je joue avec, je dis hey, André, ça va et tout, mais bon, ça reste superficiel, c'est pas profond, c'est pas ce que Mike a partagé hier soir. Et du coup, je me suis rendu compte de ça, c'est vrai que si déjà moi-même, je vis pas de communion fraternelle avec des frères et sœurs, mais comment je peux être motivé à aller partager l'évangile? Enfin, être avec des frères et sœurs, finalement, c'est notre zone de confort, finalement. C'est voir des frères, des personnes qui partagent la même foi que nous, être ouvert, direct parler de Jésus, de Dieu, ça choquera pas. Et alors qu'avec des non-chrétiens, bah voilà, ils ont pas cette même vision, faut faire attention à comment on parle, etc. Enfin, il y a des mots, ils vont pas comprendre. Si je commence à dire oui, moi je pense à l'agneau immolé, tu sais, celui qui a versé son sang pour nous, ils comprendront pas. Et du coup, faut faire attention à comment expliquer chaque verset, etc. Et voilà, je me suis rendu compte que j'avais même pas cette base de communion fraternelle en ce moment, en septembre. Alors comment est-ce que j'allais avoir cette passion, en fait, finalement, pour et cette patience aussi pour pouvoir parler avec les non-chrétiens. Et du coup, je me suis compte que, ouais, moins de communion, et ça veut dire, ça entraîne moins d'inclination à aller voir des non-chrétiens. Et Ting disait aussi que trop de réunions tuent les relations. Et quelque part, c'est vrai, je pense que on devrait prendre du temps en dehors de l'église, parce que le dimanche, voilà, on est tellement en rush. Pour ça, j'ai envoyé un texto à Joël, je fais, vas-y, on se voit si tu veux, on fait un McDo. Il a fait, ok, vous êtes pas obligés d'aller au McDo, les filles. Mais voilà, c'était juste un exemple. Et franchement, ça m'a fait trop du bien, c'était de dire, bah voilà, à midi, je prends du temps, je me pose et on parle, je fais une pause, voilà. Ah, j'ai mon collaborateur qui m'appelle. Non, je décroche pas parce que c'est ma pause. Parce que j'avais l'impression de rentrer dans un système où on veut toujours influencer, être une lumière dans le travail ou là où on est. Mais finalement, j'ai l'impression que le travail et le monde étaient en train de m'influencer, en fait. Et j'étais en mode, ok, en fait, je faisais le taf. Ça, c'est normal de faire le taf. Mais après, moi, j'étais... je commençais à dire, bon, bah, oui, effectivement, faut, oui, plus de chiffre d'affaires, faut faire ça, mais c'est pas mon but. Enfin, moi, c'est pas que ça m'est égal, mais je fais bien mon travail. Et derrière, moi, j'ai d'autres objectifs, en fait. Je ne vis pas pour travailler. Mais je travaille pour subvenir à mes besoins, mais je vis pas pour travailler. Je vis pour Dieu. Et ça devrait se refléter. Et du coup, je me rends compte de ça, vendredi matin, qui vient de passer là, vendredi matin, bah, j'arrive, j'étais un peu en avance, j'ai pris 10 minutes pour parler avec une collègue. Pour dire, vas-y, raconte ta journée d'hier. Voilà. Et pas dire, oh non, j'ai pas le temps. Voilà. Non. C'est, ok, j'avais du travail à faire, peut-être je suis sorti un peu plus tard, mais j'ai pris du temps. Et ça, c'est des choses que certains autres collègues, ils ont pas le temps, en fait. Ils sont là, j'ai pas le temps. Mais si on prend du temps et on fait la différence là où nous sommes, pas que pendant la semaine d'évangélisation, parce que la semaine d'évangélisation, c'est quelque part, c'est comme un incubateur, on est là, on échange des idées, on est à fond, mais aussi, il faut que ça se reflète dans notre vie de tous les jours, donc avec nos collègues, par exemple, notre famille. Et voilà, donc, comme on l'a vu ensemble, cette communion fraternelle, c'est une base stable, et je pense qu'à Saint-Maur, on a cette base stable, et c'est pour ça que j'avais vraiment à cœur qu'on se remémore ce qu'on a déjà vécu jusqu'à présent, que cette communion fraternelle, on l'entretienne, que ce soit pas juste, ok, c'est acquis, mais c'est vraiment quelque chose qui se renouvelle et de partir de cette base stable pour encore plus aller vers la mission, s'encourager à la mission et de pouvoir obéir ensemble au commandement de Christ, d'aimer nos prochains comme Christ nous a aimés et aussi d'aimer et aussi d'obéir et d'aller faire des nations des disciples. Et en plus quand on vit une semaine d'évangélisation ensemble, quand on vit une semaine de mission ensemble, on vit la communion fraternelle, en fait. Enfin, c'est marrant, mais on s'y attend pas forcément. On se dit, ah ouais, je vais être à fond en mode évangélisation. Mais quand on rentre et qu'on partage, ouais, j'ai une super discussion, ou, ah, j'ai pas une super discussion, vas-y, on prie ensemble, c'est pas grave et tout, ça raconte comment c'était quand même, etc. Et, c'est une communion fraternelle qu'on vit, et c'est plus par rapport à ce qu'on a vécu ce week-end, parce que là, on était pendant un jour et demi, deux jours et demi. Et pas la semaine, c'est toute la semaine, en fait. Donc c'est vraiment quelque chose de fort, en fait. Alors c'est marrant parce que le thème de ce week-end, on l'a choisi depuis début septembre. Il me semble que c'était début septembre. Et en fait, moi je me suis dit, on va nous exhorter à la communion fraternelle, mais en fait Dieu il a permis que ça me touche en premier, en fait. Voilà. Des fois je dis, ah c'est bien pour les autres et tout, et en fait ça me concerne moi le premier. Et il nous invite vraiment à continuer dans cette communion. Communion fraternelle, soutenir les uns les autres, aider les uns les autres, aimer les uns les autres, porter les fardeaux les uns des autres, se confesser les péchés les uns aux autres, s'encourager les uns les autres mutuellement, et en ayant toujours un cœur qui est ouvert pour la mission. En fait, c'est pas je fais la communion, je fais la mission, c'est je vis la communion et je vis la mission ensemble, en fait. C'est indissociable, en fait. les versets qu'on a vus ensemble, ils ont montré que c'était vraiment indissociable. Donc voilà. Pour terminer, je vous invite à prier. C'est entre Dieu, merci encore parce que tu nous as aimés, tu nous as choisis, tu nous as aimés jusqu'au point de donner ton Fils Jésus-Christ, mort à la croix pour nous. Seigneur, merci parce que notre vie tourne autour de cela. Notre vie ne tourne pas autour de nous-mêmes, notre vie tourne autour de toi. Parce que tu es le Créateur, c'est toi qui nous as aimés, qui nous as créés et qui nous a sauvés aussi, Seigneur. Et quoi de mieux que juste vivre notre vie pour toi, pour te glorifier, Seigneur, en retour. Seigneur, apprends-nous à aimer notre prochain. Apprends-nous à t'aimer plus que tout. Apprends-nous à obéir à ton commandement qui est aussi de faire des disciples, Seigneur. Ne pas faire des disciples parce que tu le dis, mais de faire des disciples parce que on a à cœur que les gens soient sauvés aussi, Seigneur. Et que tu nous utilises, Seigneur, pour cela. C'est juste incroyable, Seigneur, parce que tu aurais pu envoyer des anges pour forcer les gens, ou en tout cas pour annoncer ton évangile. Mais tu le fais à travers la prédication de ta parole, et cette prédication se fait à travers nous. Alors merci, Seigneur, de nous avoir jugés utiles pour ton œuvre, Seigneur. Et Seigneur, je te prie pour que tu nous remplisses de force, de puissance, de ton Saint-Esprit, Seigneur, pour être à même de vivre cette vie, Seigneur, cette vie à contre-courant, Seigneur. Quand on voit comment les gens sont dans le monde, Seigneur, et comment des fois nous tendons vers eux, Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, pour que tu changes notre cœur, que tu ravives la flamme, Seigneur, comme on l'a chanté. Ravive notre amour, ravive notre flamme, embrase notre vie, Seigneur, afin que nous puissions avoir ce cœur d'amour, Seigneur, ce cœur qui ne dépend pas de nous, mais ce cœur qui dépend que de toi, Seigneur, et de l'amour que tu déverses en nous, et que cet amour qui est tellement rempli, qui remplit tellement notre cœur, puisse se déverser dans la vie des autres. Que ce soit, Seigneur, nos frères et sœurs qui ont besoin de soutien, ou que ce soit notre entourage qui a besoin de toi et qui le voit la différence dans notre vie, Seigneur. Crée des occasions, Seigneur. Apprends-nous aussi à créer ces occasions. Forme-nous, Seigneur, afin, modèle-nous, Seigneur, à ton image, Seigneur, afin que tout ce qui ne te plaît pas, Seigneur, s'en aille et que tu puisses remplir ensuite les vases que nous sommes, Seigneur, afin que nous puissions être des vases purifiés, utiles, pour des bonnes œuvres que tu as préparées d'avance, Seigneur. Seigneur, je te prie toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.